Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, archivistes et versa, historiens de rien, vous qui ne regrettez rien, bonjour et bienvenue, vous écoutez l'onde historique de ce lundi 27 octobre. Aujourd'hui, on feuille morte, on toussaint, nos morts se rappellent à la masse. Oui, ils sont bien vivants, c'est le moment parfait pour inviter l'association Mémoire d'Ardèche, étant présent, qui fouille dans l'histoire du territoire et l'exhume pour nous la rendre bien vivante, grâce notamment à sa revue trimestrielle, à l'édition de livres et d'études, à des colloques et tellement d'autres choses. On en parle dans un instant avec Jean-Claude Saby, son vice-président, mais d'abord, c'est l'agenda. Et même avant ça, c'est la bise à Sylvain. Salut Sylvain.
Salut, salut.
Mémoire d'Ardèche étant présent, c'est ce qui va nous guider dans la sélection d'événements d'aujourd'hui. Il est la mémoire de la musique et vous pourrez le rencontrer en chair et en os demain. DJ Steph, bien connu des auditrices et auditeurs fidèles, lui qui anime les émissions Hexagon Live et Hexagon Jazz & B, les lundis à 21h. Après l'apéro vinyle du mois dernier, Fréquence 7 débute à la médiathèque et avec la médiathèque de Benat, les apéros musicaux, le dernier mardi du mois. Et demain, donc, venez voir DJ Steph, cette légende vivante en vrai, et surtout découvrir son univers musical. Et même, alors le Saphir de Mont-Sion m'a dit qu'il voulait faire une histoire du son. Petit message personnel à l'attention de Steph. Steph, c'est censé durer une heure. Voilà. Dans tous les cas, ça risque d'être passionnant, et si vous ne vous rappelez plus avec quel musicien, le 10 juin 1956, dans une petite cave de Saint-Germain-des-Prés, jouait Sonny Rollins, c'est l'occasion de venir lui demander, et je suis pratiquement sûr qu'il pourra vous apporter une réponse, il saura même ce qu'il portait ce jour-là. C'est donc demain à 18h à la médiathèque d'Aubenas. Immortaliser les images et les vivre au présent, c'est évidemment ce que propose la photographie. Et il vous reste quelques jours, aujourd'hui, demain et jeudi, pour voir l'une des expositions du 8e Festival International de Photographie, organisé par Chambre 07 sur le thème Seuil commun. Plusieurs expositions étaient présentées et celle située à la ferme avenue de Bélande à Aubenas est encore visible jusqu'à jeudi de midi à 18h. Ça, c'est les horaires d'aujourd'hui et demain, et de midi à 22h, mercredi et jeudi. Vous pourrez y découvrir les photos de Séverine Bord, Henri Cartman, Claire Farco et Hubert Barré. Autre expo qui commence aujourd'hui et sera inaugurée jeudi, dans les profondeurs du vivant, à la salle Volane de Vals-les-Bains jusqu'au 9 novembre, avec Vannerie Métis, Émilie Bayard et Maude Cantillon, soit trois femmes reliées à leurs instincts qui partagent et expriment leur regard sur le monde à travers des portraits, des fractales et des branches tissées. Je rappelle l'invitation au vernissage, ce sera jeudi à 17h30 à la salle Volane de Vals-les-Bains. Se prépare la deuxième collecte d'images filmées en Ardèche entre 1920 et 1990. C'est initié par les archives départementales de l'Ardèche et en collaboration avec l'association OFNIBUS. Ce sera du 17 au 21 novembre à Privas. Alors ça laisse un peu de temps pour fouiller les greniers, réveiller les souvenirs et ensuite venir avec vos bobines pour redécouvrir ensemble les images de l'Ardèche au siècle dernier. Films de famille, d'entreprise, de vie associative, de vie agricole, de loisirs, manifestations. Bref, pour déposer, visionner ou numériser vos films, prenez contact avec l'association OFNIBUS à contact@ofnibus.fr. Vous trouverez toutes les infos nécessaires sur le site des archives départementales de l'Ardèche de Privas. Je vous rappelle donc cette collecte qui aura lieu pendant 5 jours du 17 au 21 novembre, avec le soir du 21 novembre une projection publique. Ah, malheureux, à 17 ans, certains se sentent déjà vieux et là. Raison pour laquelle le service Info Jeunes Sud-Ardèche et la mission locale Ardèche Méridionale, en partenariat avec les communautés de communes du Sud-Ardèche et la ville d'Aubenas, organisent En octobre, entre octobre et janvier, les Feel Good Sessions dans 9 communes du Sud Ardèche. On en a parlé la semaine dernière. Les Feel Good Sessions, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des séances de bien-être avec de la cohérence cardiaque, la sophrologie, du Qigong, des ateliers autour de l'alimentation, avec un vélo bar à smoothie notamment, des activités physiques avec des découvertes de sport, des quiz. Quel sportif es-tu? Bref, un petit peu tout ce qu'il faut pour les jeunes et leurs parents pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Et après Aubenas la semaine dernière, la prochaine session a lieu demain à Saint-Cirgue en montagne, à la salle Pierre Basset de 14h à 17h. Et mercredi, ce sera à Saint-Étienne-de-Fontbellon de 9h à 16h à la Maison des Associations. Et pour terminer, une conférence qui aura lieu jeudi à 18h à l'espace Ouvèze à Privas, une Ardéchoise née à Vallon-Pont-d'Arc qui est partie vivre à Madagascar, en Angleterre, aux États-Unis et qui aurait pu avoir sa place dans le numéro 165 du trimestriel Mémoire d'Ardèche étant présent, consacré aux Ardéchois aux quatre coins du monde. Cette Ardéchoise, c'est Anna Boule Guérin, surnommée Poppy Lady, qui pendant la Première Guerre mondiale a levé des fonds pour venir en aide aux familles des victimes du conflit depuis les États-Unis où elle vivait à l'époque. Elle est surtout connue pour être à l'origine de la tradition du port du coquelicot, le poppy, dans les pays du Commonwealth, d'où bien sûr son surnom. Et chez nous, c'est le bleuet, cette tradition. Alors, Poppy Lady Anna Boule Guérin était très connue là-bas, mais pas chez nous. Et l'historien Claude Vigoureux, qui travaille sur son histoire romanesque depuis pas mal d'années, va réparer cette injustice dans sa conférence, qui aura donc lieu, je le répète, jeudi à 18h à l'espace Ouvèze à Privas. Nous parlons donc de ces Ardéchois partis vivre aux quatre coins du monde, mais aussi et surtout de l'association Mémoire d'Ardèche étant présent juste après avoir écouté ceux qui restent vivre en Ardèche.
On est là par hasard, un lieu géographique, croisement de l'histoire, erreur géologique. On pousse en un pays, comme on plante un rocher, puis on n'est point lié, fiché dans le décor. On se sent tout petit, vertige au fond du corps. On apprend pas à pas, le plateau et la plaine, le calcaire chauffé, la pente des Cévennes. On se fait des amis, c'est long, ça va, ça vient, car les têtes sont dures, méfiant son chemin. Puis on se fait sa place, photo dans le décor. Moi, c'est l'Ardèche, où le temps se compte en virage, peu de richesse. Le fil de soie est en sommeil. On rencontre le nord et le sud en querelle, deux mondes qui s'empoignent, nucléaire, châtaigne. On bouge à peine un peu et l'on s'immobilise, mais le gel et le feu rassemblent les efforts et l'on jette au panier querelle de clocher. Moi, c'est l'Ardèche, où le temps pèse plus lourd qu'ailleurs, peu de richesse. La voie ferrée porte le deuil. On croise des espoirs qui vous poussent et qui enflent, les donneurs de leçons, les rois des crocs en jambes. On s'en fout, on se bat, et l'on sait bien pourquoi on vit dans ce pays et on le porte en soi. Et vivre en raccourci ne m'intéresse pas. Moi, c'est l'Ardèche, où le temps porte une autre odeur, seule richesse, le cœur de ceux qui osent encore vivre en Ardèche.
Il y a un épisode Sevenol dans les studios de Fréquence 7, mais tout va bien. Vivre en Ardèche, mais oui, c'est le risque de vivre en Ardèche avec les épisodes Sevenol. Pardon, excusez-moi, il faut un petit peu éponger. Vous êtes donc bien sur Fréquence 7 avec Yves Paganelli qui nous parlait de vivre en Ardèche. Et j'ai beaucoup aimé nous parler aussi de croque en jambe. C'est tellement délicieux d'entendre cette expression croque en jambe, on l'entend pas suffisamment. Nous sommes donc avec Yves Paganelli, c'est le choix musical de notre invité Jean-Claude Sabi qui est vice-président de Mémoire d'Ardèche étant présent et qui vient nous parler donc de cette association. Bonjour.
Bonjour à tous.
Merci d'être là. Alors Jean-Claude, c'est vous qui avez choisi Jean-Yves Paganelli. Pourquoi ?
Parce qu'Yves Paganelli était un ami personnel. Il a été administrateur de Mémoire d'Ardèche pendant une vingtaine d'années. Et j'ai pensé que ça résumait assez bien ce qu'était notre association.
Alors, qu'est-ce que c'est que votre association ?
Alors, Mémoire d'Ardèche étant présent est une association culturelle qui existe depuis 1983, soit 42 ans.
Bon anniversaire, presque autant, pas tout à fait que Fréquence 7.
Forte d'environ 570 membres, elle édite une revue trimestrielle de 100 pages, format A4 sur le département de l'Ardèche, ancien Vivarais. En résumé, ses buts sont développer la recherche historique, géographique, sociologique, économique relative au département, en favoriser la diffusion des résultats au moyen notamment de ses cahiers, susciter rencontres et échanges entre associations, chercheurs, acteurs de la vie culturelle et économique du département.
Oui, mais je...
Si vous voulez, oui. Notre numéro 165 du mois de mars 2025, s'intéresse aux Ardéchois partis aux quatre coins du monde, que ce soit à l'étranger, dans les anciennes colonies françaises ou les départements et territoires d'outre-mer.
On va en reparler dans un instant de ce trimestriel spécifique que j'ai encore, qui a un petit peu pris l'eau là, mais qui est encore accessible, Ardéchois aux quatre coins du monde, effectivement, le numéro 165. Mais avant, vous nous avez présenté les grands objectifs de l'association. Mais j'aimerais qu'on détaille un petit peu ses membres. Qui sont-ils ? Qui vous êtes, vous, les passionnés, les plus de 500 passionnés qui faites vivre cette association ?
Autour de la... Enfin, nous sommes un conseil d'administration de 24 membres, qui se réunit à peu près tous les mois et demi pour parler 18 mois à l'avance des cahiers à venir.
18 mois, vous prenez un an et demi avant,
c'est-à-dire vous... C'est à peu près le délai qu'il faut pour trouver des auteurs sur un thème donné, pour essayer de le couvrir le mieux possible. Nous avons par ailleurs à peu près 25 correspondants locaux sur les zones où on n'a pas d'administrateurs qui nous servent de relais pour trouver des sujets et des auteurs pour couvrir au mieux le département. Voilà. 570 membres, ce sont des gens qui s'intéressent à l'Ardèche. Bon, nous avons, dans le conseil d'administration, nous avons d'anciens universitaires, nous avons des profs d'histoire-géographie et des monsieur tout le monde qui s'intéressent à l'histoire.
Et des madames tout le monde aussi.
Oui, alors nous avons 7 ou 8 éléments féminins et nous sommes toujours à la recherche de ce côté-là pour...
7 ou 8 parmi les 24
ou ouais, par... 7 ou 8 parmi les 24.
Ah, pas parmi les 500.
Non, parmi les 500 c'est beaucoup plus important. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles administratrices pour augmenter le nombre de femmes dans le conseil d'administration.
Et justement, est-ce que il y a des jeunes qui rejoignent un petit peu l'association, qui sont intéressés par ces questions de mémoire et de transmission ?
Sur les 24, nous avons 5 ou 6 personnes de moins de 50 ans, notamment des profs d'histoire géo du Nord Ardèche. Quelqu'un qui fait actuellement une thèse sur la présence des contes du Valentinois en Ardèche. Et bon, quelqu'un Jean-Claude Courtial, qui se passionne pour tout ce qui, tout ce qui touche à l'Occitan en Ardèche.
Mmh. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose... on voit l'intérêt, et notamment, il y a un jeune documentariste, Valentin Chanéac, qui a réalisé 4 documentaires qui s'appellent Pagel, qui sont en train d'être projetés.
J'ai la chance, j'ai pas vu Valentin depuis longtemps. Je connais bien son papa, Jean-François. Je n'ai pas vu encore les documentaires sur le plateau ardéchois. Bon, il faut savoir que à l'Assemblée Générale de Mémoire d'Ardèche sera projeté un documentaire sur les eaux minérales de Bois-Lantal à Chanéac, réalisé par un amateur d'origine suisse. Si demain on peut avoir un contact avec Valentin, pourquoi pas présenter lors d'une autre Assemblée Générale un de ces documentaires. Pardon.
Et Assemblée Générale qui aura lieu quand ?
Le 31 janvier à 14h à la salle des... je ne sais plus comment elle s'appelle, de Chomérac. Salle des fêtes de Chomérac.
Alors, on va parler un petit peu justement de ce cahier numéro 165 que j'ai donc toujours sous la main, Ardéchois aux quatre coins du monde. Pour l'introduire, peut-être on va entendre une petite voix facétieuse que certains connaissent peut-être.
Moi, j'allais voir des fois le Gustou. Et le Gustou, il me racontait qu'il avait été cow-boy à Buffalo, dans le Wyoming. Il allait chercher une tête empaillée de coyotes qu'il avait tué à coups de fusil gras en Amérique. Moi, lattier, peintre et conteur, petit enfant, j'ai connu un cow-boy.
Fantastique, il a connu un cow-boy. C'était Gustou qui tenait le bar tabac à rue 11. C'est comme ça qu'il l'a connu et c'est sa tante Fernande.
Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un certain nombre d'Ardéchois qui sont partis aux États-Unis et qui sont revenus, soit pour combattre en 14-18, soit un peu plus tard, et qui, bon, j'en connais, qui sont aujourd'hui décédés, j'ai connu leurs descendants qui sont aujourd'hui décédés à Montélimar, ils étaient partis comme mineurs. Et il y en a qui sont rentrés, d'autres qui sont restés aux États-Unis.
Mmh. L'histoire de Gustou, donc là je vous ai juste passé un petit extrait, mais apparemment Gustou voulait faire fortune, et finalement il y a une dévaluation, finalement il est rentré. Pauvre. Mais pour retrouver sa Fernande avec laquelle il devait se marier. D'accord. Alors, vous avez choisi donc quelques portraits, mais ce n'est pas la première fois que vous allez rencontrer, c'est une manière de dire, mais ces Ardéchois qui sont partis aux quatre coins du monde, en tout cas relater et faire leur portrait de ces Ardéchois.
Non, il y a eu un premier cahier, le cahier 96, qui remonte à peu près à 20 ans. Donc je me souviens plus le titre comme ça.
Bon, c'était en 2007.
C'était en 2007. Il y a eu un premier travail qui a été fait. On savait que c'était pas terminé. On n'a pas recoupé ce qui avait déjà été publié, mais on est revenu sur le sujet comme ça nous arrive de temps en temps. Bon, ça nous est arrivé sur la châtaigne. Ça va nous arriver sur la vigne le 20, 25 ou 30 ans après. C'est un des sujets qui est en cours de travail au niveau d'une commission de travail. Mmh. Et là, bon, je n'ai pas le cahier sur place, je ne l'ai pas révisé, donc je n'ai pas forcément tout ce qui a été publié à l'époque.
2007. En tout cas, là, donc ce cahier qui n'est pas le dernier, il a été édité, publié en mars. Mais il est assez intéressant et surtout il fait voyager. Puis c'est vraiment des portraits, ce qui met un petit peu en lumière ce pourquoi il y a eu une grande vague d'émigration, comme d'ailleurs dans d'autres pays, je pense notamment à l'Irlande, où il y a beaucoup eu énormément d'émigration vers les États-Unis, notamment dans les années
1850-1910 à peu près. Si vous voulez, la particularité des Ardéchois qui sont partis, ils sont d'abord partis comme mineurs sur les mines d'Alès, les mines du Gard. Ils ont accompagné des chargements de charbon pour les décharger aux États-Unis. Ils se sont embauchés dans des mines notamment en Virginie. Et bon, ben, ils ont fait souche. Pour la plupart, il y en a quelques-uns qui sont rentrés. Bon, j'ai un cas qui me revient en tête à Dornas, au côté du Chélard, où un mineur est rentré en n'ayant pas fait la guerre de 14-18, et il a creusé une source d'eau minérale qu'il a appelée l'América. Bon, il n'a pas fait fortune, mais bon, il a vécu de cette source jusque dans les années 40 à peu près.
Alors, vous me disiez hors antenne que beaucoup d'Ardéchois sont partis à ce moment-là. Je vous posais la question, mais pourquoi? Est-ce qu'il y a une plus forte émigration de la part des Ardéchois que d'autres Français issus d'autres régions? Et vous me disiez surpopulation.
Oui, nous avons affaire à des zones du département, notamment les zones de pente et d'altitude, où nous avons beaucoup de personnes jeunes. Il ne faut pas oublier que ce sont des familles de 10, 12, voire plus enfants, que la terre ne peut plus les nourrir. Ils cherchent un avenir meilleur et ils vont le chercher, les uns au Canada, les autres aux États-Unis pour les zones de pente, d'autres
en Afrique
et notamment en Algérie, alors française. Mm-hmm. C'est le cas notamment beaucoup dans la région de Rions-Joyeuse. Il y a beaucoup de départs qui donneront lieu d'ailleurs, après la guerre d'Algérie, à un certain retour. Mais bon, ils sont partis sans espoir de retour en cherchant une vie meilleure. On n'a pas pu retrouver la trace d'une famille partie des environs de Mézières en Nouvelle-Zélande. On ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus, mais ils sont partis.
Mais c'est intéressant d'ailleurs de lire ces portraits, parce que donc c'est évidemment tout à fait documenté. On a notamment des extraits de témoignages, de lettres, etc. Ils ne savent pas du tout. Ils partent avec rien. Ils voient. Enfin, peut-être que certains oui, mais en tout cas, vraiment l'aventure.
On a un cas. Bon, c'est une famille qui part de Saint-Germain-de-Villeneuve-de-Berre en Argentine, où un des membres de la famille a fait plusieurs allers-retours comme cuisinier sur les bateaux transatlantiques. Mais c'est une exception. Mmh. Ils partent, je le dis bien, sans espoir de retour. Et il y en a beaucoup qui, malheureusement, le paieront de leur vie. Après, bon, vous avez un autre phénomène. Ceux qui partent, bon, sont plutôt des religieux, protestants ou catholiques. Bon, les uns sont expulsés, c'est le cas des frères maristes, lors de la laïcisation de l'enseignement. D'autres, comme un pasteur qui part d'abord en Haïti et qui finira en Algérie comme pasteur d'Oran, si je me souviens bien.
C'est ça, oui.
Mais ils sont partis là aussi pour évangéliser au sens large, et on peut dire presque coloniser des parties entières du monde. Bon, on cite l'exemple du Canada. On a l'exemple des maristes partis en Amérique du Sud, en Afrique du Sud. Bon, au Brésil, ils deviendront profs d'université. On les verra profs d'agriculture sur les hauts plateaux des Andes. Bon, c'est vraiment des gens qui ont eu des vies exceptionnelles.
Ou agents de renseignement.
Alors, c'est un cas un peu particulier.
Parlez-nous de ce père. Alors, Antonin Jossen.
C'est Antonin Jossen qui est né en 1871 à Sanillac, sur le canton de l'Argentière, qui devient frère dominicain. Il est formé en Belgique à cause des lois françaises d'expulsion des congrégations sous la Troisième République. Il est envoyé par sa congrégation en Palestine pour aider la congrégation à développer une école pratique d'études bibliques pour étudier la Bible au pays de la Bible.
Qui va devenir une référence en la matière, cette
école. Il est une référence en la matière, mais il devient surtout un spécialiste des recherches archéologiques en Judée, au désert du Negev en Syrie, en Galilée, mais aussi en Arabie Saoudite, où il fait des campagnes de prospection en 1907, 1909 et 1910. Et surtout, il devient spécialiste des tribunes bédouines de ces régions. En 1914, il est arrêté par les Turcs, qui sont des alliés des Allemands, qui veulent le déporter en Asie mineure. Le pape de l'époque obtient qu'ils soient envoyés en Europe. Et finalement, un bateau anglais va arraisonner le bateau sur lequel sont les religieux et s'intéresser au frère Josson, parce qu'il a une connaissance très importante d'une zone capitale de l'Empire ottoman.
Et donc quoi, il va jouer un rôle...
Alors, les services de renseignement britanniques l'identifient comme détenant des renseignements de la plus grande importance. En effet, Antonin Josson leur apprend que les Turcs s'apprêtent à attaquer le canal de Suez depuis le désert. L'assaut de février 1915 sera un échec grâce aux renseignements qu'il va fournir. Il devient alors membre du MIS, le service de renseignement britannique, avec le grade de capitaine. En août 1915, il rejoint les services secrets français et il va naviguer sur la mer Rouge jusqu'en 1918. Il raconte notamment Laurence d'Arabie, que nous ne présentons pas, lui, membre des services secrets britanniques, en février 1917. Après la guerre, il est envoyé fonder une maison d'études dominicaine au Caire. Il revient en France en 1959, où il meurt en 1962. Mais c'est quelqu'un qui a eu une importance stratégique capitale dans cette zone où les Turcs auraient pu prendre d'assaut la colonie britannique d'Égypte.
Passionnant. On peut lire toute l'histoire dans ce Mémoire d'Ardèche étant présent numéro 165. Où pouvons-nous trouver toutes les revues, celles-ci ainsi que toutes les autres?
On la trouve dans les librairies, dans certaines maisons de la presse, à Aubenas, à la FNAC. On peut se la procurer par correspondance si on n'a pas de librairie ou de maison de la presse à proximité, en écrivant à Mémoire d'Ardèche étant présent, en résumé MATP, boîte postale 507-290 Satilleux, au prix de 14 euros, plus 7 euros de frais postaux.
Et puis vous avez un site internet qui s'appelle mémoire-ardèche.com.
Il y a le site internet où vous retrouverez le résumé et les plans des 42 années de cahier, puisque nous en sommes au mois de décembre, numéro 168.
Alors, numéro 168, oui, vous êtes venu aussi avec un autre cahier.
Alors, je vous ai amené le numéro 167, qui traite de l'apport de la poésie à l'histoire du Vivarais et de l'Ardèche. C'est un cahier qui est plus important que les cahiers habituels, puisqu'il fait 100 pages sur le thème. Je renverrai au site internet pour avoir le plan. On y parle notamment des troubadours, les quatre troubadours, on va dire occitan, Ardèche, Gard. Ça, c'est le tout dernier. Et le prochain, qui sortira en décembre, sera sur du combat pour la liberté à la libération, c'est-à-dire la période 1944-1946.
Simplement pour revenir sur ce Mémoire d'Ardèche étant présent, Balade poétique en Ardèche, le numéro 167, celui qui vient de sortir là, vous parlez des troubadours, bien sûr, mais ça va jusqu'à Jacques Dupin, notamment, aux auteurs ardéchois.
Alors ce ne sont que des poètes disparus. Je le précise parce que ce serait trop compliqué de traiter de personnes vivantes.
Merci beaucoup. Est-ce que, donc, on l'a dit, vous accueillez de nouveaux adhérents?
Alors, cette année, on a, je crois, 55 ou 57 nouveaux membres. Et si on veut adhérer, c'est relativement simple. On peut éditer depuis le site internet qui est en cours de réflexion et qui permettra bientôt l'adhésion en direct par internet. On peut adhérer. L'adhésion annuelle qui va du 1er janvier au 31 décembre est de 45 euros. Et on peut adhérer à l'adresse que j'ai donnée tout à l'heure. Le plus simple, c'est peut-être de passer par le site internet. Sinon, dans tous les cahiers dorénavant depuis à peu près 2 ans, Vous avez une feuille d'adhésion éventuelle.
Et vous, Jean-Claude, vous êtes adhérent depuis combien de temps? C'est une passion qui vous anime.
J'ai une passion pour l'histoire et l'histoire du département. Je dois être adhérent depuis une trentaine d'années. Maintenant, j'ai beaucoup plus de temps étant à la retraite que par le passé. Mais bon, c'est une passion. Et le but, c'est de faire connaître, en étant adapté au plus grand nombre, ce que je découvre.
Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'être venu ici dans ces studios pour nous parler un petit peu de cette association et puis des derniers cahiers qui sont sortis. Merci à vous, Jean-Claude.
Merci à vous parce que vous nous permettez de faire connaître l'association.
Et merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, auditrices, auditeurs, d'être encore une fois derrière votre poste qui crépite. Attention, et qui crépite d'autant plus parce que, là vous l'avez probablement entendu, passe des spots pour vous informer sur notre situation, encore une fois, rebelote. L'année dernière, on vous avait parlé de notre situation critique à nous comme à celle des 770 radio-associatives locales qui sont menacées par une baisse très conséquente, moins 45% du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Le fonds de soutien à l'expression radiophonique, c'est la subvention qui représente pour certaines radios 50 à 70% de leur budget, ce qui est le cas pour Fréquence 7. C'est-à-dire, vous l'avez entendu, vous l'avez compris, qu'avec cette baisse significative de 45%, ça veut dire qu'une radio comme Fréquence 7 ne pourrait plus tourner. Voilà, donc mobilisez-vous. On vous a donné les informations sur notre site internet. On le fera aussi sur notre page Facebook. Informez vos élus locaux, informez les députés. Faites pression puisque demain et mercredi, il y aura des auditions de la ministre de la Culture, Rachida Dati. Donc il faut vous mobiliser pour soutenir, c'est même plus que nous soutenir en fait, essayer de maintenir cette radio comme les autres radios associatives vivantes. Merci à vous. Et à 13h, les programmes, ça me travaille. À 15h, le Telex, vos événements en Sud-Ardèche. À 17h, la rediffusion de cette onde curieuse. À 18h, solidaire d'abord. À 18h45, les mondes demain, avec aujourd'hui Bénédicte Bonzi, à l'occasion du forum local de l'alimentation autour de la précarité alimentaire. À 19h, l'écho du parquet. À 21h, Hexagone Live, avec la rediffusion de la semaine dernière autour d'Oxmo Puccino. Et puis, nous, on se retrouve demain pour une prochaine émission. Merci à toutes et à tous. Ciao.